Alors, je suis aujourd'hui avec Jean-François Godbout, professeur à l'Université de Montréal en sciences politiques et un des spécialistes de tout ce qui touche les questions parlementaires dans le contexte canadien, mais également dans un contexte comparé. On va aujourd'hui aborder quelques questions qui sont liées à ses recherches, mais également à son ouvrage à paraître au cours des prochains mois. Bonjour Jean-François.
Bonjour Marc-André.
Dans le cadre du cours, les étudiants ont eu à lire un des articles que tu as publié en 2013 avec ton collègue norvégien. Et qui touchait notamment l'histoire, les débuts de la Chambre des communes, mais également tout ce qui a amené à l'apparition d'une ligne de parti plus serrée. Je te demandais, si tu avais à revisiter cet article-là ou ce projet-là, quelles seraient les choses que tu aimerais soit changer ou encore augmenter, améliorer là, pour le rendre à l'article plus complet? Qu'est-ce que tu aborderais?
Ben, pour commencer, j'aimerais souligner que l'article est parfait du début à la fin, mais en toute honnêteté, si j'avais à refaire le travail, c'est certain qu'on a construit une banque de données qui n'existait pas, Hoyland et moi. Donc, on a un peu appris dans le processus comment faire les choses. Et on a pris des décisions éditoriales, si vous voulez, pour le codage de variables. Donc, je m'explique, coder des votes au Parlement, c'est relativement simple. On vote en faveur d'un projet de loi, on est contre, on est absent. Bon, ça allait, mais après ça, dans le travail aussi, on voulait savoir sur quel type de projet de loi les députés votaient, le sujet. Donc, il a fallu créer une espèce de typologie, de codage, un codebook, si l'on veut, excusez l'anglicisme, là, où on essayait de déterminer le type de projet de loi, par exemple. Est-ce que c'est une motion? Est-ce que c'est un bill privé, est-ce que c'était un projet de loi du gouvernement, puis c'était quoi les sujets, est-ce que ça avait trait à la religion, par exemple, ce qui est un thème important dans mes travaux, ou est-ce que ça avait trait, par exemple, au budget, mais si ça avait trait au budget, puis on parlait de la religion, donc ça avait trait à quoi, finalement, la motion introduite, puis le vote qui suivait. Bref, étant donné que on travaillait sur le projet, puis en même temps qu'on prenait des décisions, on n'avait pas Il y a des problèmes qui se sont présentés plus tard, puis on avait déjà commencé à écrire, par exemple. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait là-dessus. Bref, avec le recul, ce que j'ai fait par la suite, je me rends compte que j'aurais peut-être pu coder différemment certaines variables. Ça, c'est les variables. Quand je dis certaines variables, ce seraient les variables qui ont attrait au type de projet de loi, par exemple, au sujet.
Pour être davantage précis.
Exact. Donc, ça aurait probablement pas changé les résultats tant que ça, puisque dans mon livre, on retrouve les mêmes résultats, plus ou moins, mais par honnêteté intellectuelle, aujourd'hui, je suis obligé d'en parler, disons. Mais encore une fois, j'ai refait des analyses avec une nouvelle grille de codage, puis sensiblement, mes principaux résultats restent les mêmes. Je peux en parler dans un moment. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que c'est un peu plus, méta, dans le sens que mon projet avec Hoyland est hollandais. On avait déjà publié dans la revue canadienne, on a essayé de publier dans une revue un peu plus internationale. Donc, on a choisi un cadrage pour intéresser, par exemple, des Américains ou des Européens. Puis ça se reflète quand vous lisez l'article, là, on essaie de faire un argument qui est un peu plus exportable. Mais finalement, pour des raisons de carrière, etc., on a essayé de le publier, je pense, dans LSQ, le Legislative Studies Quarterly, puis on a eu des bons commentaires, mais c'était pas suffisant pour passer la barre. Alors là, on a dit, finalement, on doit publier, il faut avancer dans le projet, donc on s'est rabattu à la Revue canadienne de sciences politiques, où je pensais que ça allait avoir un beaucoup plus grand impact, disons, que si ça avait été publié, par exemple, dans une revue européenne. Or, il s'avère que le framing, comme je dis, le cadrage, il aurait pu être un peu plus canado-centrique si on avait commencé l'écriture vraiment en pensant à la revue canadienne. Ça, c'était une erreur, un auditoire plus canadien. Donc, en relisant le texte, moi, je suis insatisfait de ça. Je le vois là où je dis, finalement, il y aurait peut-être une réécriture plus serrée, aurait peut-être été plus intéressante. C'est un peu, disons, en pensant au lectorat qui est canadien, qui connaît peut-être un peu plus l'histoire, on aurait pu aller davantage dans les détails, disons. Puis en troisième lieu, il y a la question du cadre théorique qui est un peu absent du projet, mais qui est plus présent dans le livre. En fait, je réfléchissais à ça ce matin, là, puisque Marc-André m'a transmis les questions quelques jours à l'avance. Je me disais, peut-être qu'il y avait vraiment deux articles dans cet article-là, et on a été assez ambitieux de vouloir faire un article où, dans un premier temps, on a une analyse qui essaye d'expliquer le vote avec une variable dépendante qui est un indice de loyauté, là, la fréquence avec laquelle les députés appuient leur parti, pour voir, par exemple, si la date où on a été élu, si on a été élu, c'est une thèse de la science politique canadienne, que les députés qui étaient élus lorsque les élections se faisaient sur plusieurs semaines, qui étaient élus au début de la période électorale, étaient moins loyaux que ceux qui étaient élus à la fin. Donc, on a voulu vérifier si c'était le cas. La réponse, c'est non.
Les loose fish, exact.
Shaky fella, c'est des termes employés par McDonald et ses collègues. Donc, on a testé ce type de thèse-là, si la pression électorale avait une influence sur le comportement des élus. Par ailleurs, on a également regardé l'influence de la religion dans un modèle spatial. Donc, ça faisait quand même pas mal de matériel. Comment les partis s'organisent dans un modèle spatial, là, si on fait une analyse factorielle des votes, là, en utilisant la méthode de classification optimale de Keith Poole. Et bref, il a fallu faire puisque l'article avait quoi, 9000, 10000 mots, là, ça commençait à être un assez long article. On n'a pas pu développer un cadre théorique pour expliquer un peu le comportement des élus, les motivations qui pourraient les amener à appuyer leur chef ou non. On en parle un petit peu, c'est une faiblesse selon moi, travail qui peut paraître un peu plus inductif. Mais bref, il y a quand même, je pense que ça a été relativement bien reçu comme papier. Et dans le livre, c'est ça, j'essaie d'adresser certaines de ces lacunes-là.
Si je pouvais, juste sur le deuxième point que tu as amené, le fait qu'il y a peut-être pas peut-être trop de détails pour des Canadiens, je serais pas nécessairement d'accord, au sens où dans la plupart des politologues canadiens sont très peu portés vers l'historique, que ce soit des institutions ou encore du comportement électoral. C'est un article, en fait, qui en fait une de ses forces, qui couvre une partie de notre histoire politique qu'on voit au moins. Est-ce que, vous êtes deux politologues, est-ce que ça a été beaucoup de travail d'archives, de recherche pour comprendre le contexte de cette époque-là, ou c'était un domaine que vous maîtrisiez déjà, c'était un thème que vous maîtrisiez déjà au moment d'aborder le sujet?
Disons, c'est une bonne question. Moi, c'est certain que mon collègue norvégien n'est pas devenu spécialiste de l'histoire politique canadienne, donc lui, sa force était plutôt au niveau de la gestion des données, de la méthodologie. Puis on avait d'autres projets financés par le gouvernement norvégien qui nous ont permis aussi de travailler sur cette question-là simultanément. Cela dit, moi, j'enseignais à une époque, là, je vais probablement leur redonner éventuellement un cours d'introduction à la politique canadienne avec une approche plutôt institutionnelle. Et dans ce contexte-là, je me suis intéressé à l'histoire politique. J'essaie de comprendre le parlementarisme, là, les raisons qui expliquaient pourquoi, par exemple, le gouverneur général à une époque avait un pouvoir législatif, puis il l'a perdu. Puis si on lit le classique de Pelletier et Tremblay, par exemple, qui est le parlementarisme canadien, là, qui est un manuel, je ne sais pas si c'est le manuel qu'on emploie à l'Université Laval, mais qui est utilisé ici à Montréal, là, puis il a été édité dans plusieurs éditions, disons. On parle très peu de la mécanique historique, disons. Donc, en me familiarisant avec ces questions-là pour essayer de comprendre l'évolution de notre système politique, j'en ai appris un petit peu, mais c'est certain qu'il y a fallu que je passe des week-ends, des soirées à lire sur l'histoire politique canadienne et québécoise, mais c'est un intérêt, disons, personnel. Je pensais à une époque devenir historien, donc ça me dérange. Disons, c'est un hobby pour moi. Là. Ça ne me dérangeait pas vraiment de travailler sur apprendre sur ces choses-là. Là. C'était très plaisant, là, contrairement à apprendre sur l'administration publique, là, avec le respect que je dois des gens qui travaillent sur ces questions-là. Là.